Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue aux amateurs de sport en ce mardi. J'espère que vous allez bien. Quelques nouvelles aujourd'hui dans le monde du sport, notamment une en provenance d'Ottawa où on apprend que Randy Lee n'est plus l'adjoint de Pierre Dorion à la direction générale des sénateurs d'Ottawa. Lui qui a eu des démêlés, quelques petits comportements répréhensibles. Quand je dis petit, pas pour diminuer ses fautes, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'une des nouvelles qui retient l'attention. Elle vient de tomber là il y a pas tellement longtemps. Ce soir, on va s'attarder on va prendre le temps de le faire comme il faut avec un des meilleurs amis de Denis Baillarger qui nous a quittés au cours des dernières heures. Denis Baillarger qui a été très longtemps président de la Ligue de hockey junior, c'est-à-dire de la Ligue Midget 3, pardonnez-moi le lapsus, parce que je pensais à Gilles Courteau qui le connaissait très très bien également, qui a publié un tweet aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui se sont prononcés, qui ont exprimé leur sympathie. Et Marc Lachapelle donc sera avec nous tout à l'heure, l'ancien du Journal de Montréal, qui était l'un des grands amis de Denis Baillarger. Il l'a vu pour la dernière fois, pas plus tard qu'hier. Donc, Marc avec nous dans les prochains instants et j'en profite pour exprimer mes plus sincères condoléances à toute la famille, évidemment, à son fils et à son épouse. Aussi, dans les nouvelles aujourd'hui, Johnny Manziel, du côté des sénateurs, mais des Alouettes de Montréal. Jérémy Filosa avec nous pour une première visite à l'émission. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario.
Donc, tous les jours, c'est le Manziel Watch. Question de savoir s'il sera sur le terrain. Alors, des nouvelles en deux temps. Il n'est pas là, mais...
Exactement. Donc, il n'était pas là, mais de ce que l'on comprend, il s'est entraîné à l'intérieur. Faut comprendre qu'aujourd'hui, les Alouettes, pour la première fois depuis plusieurs semaines, sont sortis s'entraîner dehors. D'ailleurs, plusieurs joueurs nous ont dit « ça fait donc du bien de retrouver, bien sûr, l'extérieur, le soleil, la lumière et tout cela ». C'est pas évident dans le stade olympique pendant plusieurs semaines, mais je crois que dans le cas de Johnny Manziel, peut-être que la lumière le dérange encore un tout petit peu, donc on a voulu le garder à l'intérieur. Et selon ce que nous a dit Mike Sherman, il attend le feu vert des médecins, mais ça ne devrait tarder. C'est-à-dire que ça pourrait être demain, ça pourrait aussi être jeudi. Là, on comprend que les Alouettes, là, la semaine, elle est courte. Hein? Match est vendredi. Si jamais demain, il ne peut pas encore sortir, on s'entend, là, il va rester seulement jeudi pour se préparer pour le match de vendredi. Je pense que c'est peu probable, Mario, qu'on voit Johnny Manziel vendredi contre les Argonauts.
On va développer davantage dans une heure à peu près, Jérémy, mais juste avant d'aller plus loin, as-tu senti dans les propos de Sherman que, dans le fond, ils ont l'intention de le protéger? C'est-à-dire, pas l'envoyer dans la fosse aux lions aussitôt qu'il va avoir un semblant ou une moitié de feu vert, là?
Ouais, je pense que cette fois-ci, là, on va se raviser. Là, ce sera pas comme il y a quelques semaines, là, lorsqu'on l'avait envoyé dans la gueule du loup, comme on dit. Faut comprendre aussi que les Alouettes, à une victoire, 8 défaites, c'est pas comme s'ils sont dans une course à finir pour les séries. D'ailleurs, faut quand même mentionner qu'Antonio Pipkin a quand même bien fait la semaine dernière à Edmonton. Donc, lui, il était là aujourd'hui. C'est lui qui a pris la majorité des répétitions chez les Alouettes de Montréal. Donc, d'ailleurs, je vais te dire bien franchement, pour avoir parlé à d'autres membres de l'équipe là, qui m'ont parlé à l'extérieur des ondes du micro. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attend à voir Manziel en uniforme dès vendredi.
Ça serait bien surprenant. Il y a quand même des échos positifs. Et si c'est lui le meilleur candidat au poste de quart arrière pour l'avenir des Alouettes, et je ne parle pas de l'avenir à court terme, des prochaines années, j'espère qu'on en prendra soin en ce sens. Alors, Jérémy, on se retrouve avec d'autres nouvelles également provenant des Alouettes, puis on parlera sans doute un peu de l'impact également lors de notre conversation aux environs de 19h30. Je te dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, on enchaîne.
Voilà.
Vous avez compris qu'il y a un certain délai au niveau de la communication. Jérémy n'étant pas avec moi en studio, alors ça donne ces situations-là parfois. Mais c'est pas parce que pas parce qu'il était lent à réagir, c'était purement technique. D'autre part, ce qui ressort aujourd'hui dans l'actualité, c'est une entrevue d'Austin Matthews, ce jeune prodige des Maple Leafs de Toronto, qui, dans une entrevue avec un journaliste du site The Athletic, a révélé qu'il se sentait prêt pour devenir le prochain capitaine des Leafs de Toronto. On lui a fait parler, bien sûr, de ses différents sur les points de vue partagés, ou en tout cas qu'il a partagé avec Mike Babcock. Vous savez que ça a fait quand même pas mal de turbulences du côté de Toronto en fin de saison, en fin de série l'an passé, quand on a calculé le temps de glace, par exemple, de Matthews, qui parfois jouait moins que des vétérans comme Plekanec. Puis là, on a questionné les méthodes de Babcock. Il est allé le visiter en Arizona. Alors, il commande ça. Je vous donnerai un petit peu de substance là-dessus tout à l'heure. Mais évidemment qu'il n'y a rien pour jeter de l'huile sur le feu. Bien au contraire, il dit, comme c'est souvent le réflexe de tous les joueurs dans les gros marchés, ben c'est de la faute à Toronto. Ou ici, c'est de la faute à Montréal. Ou à New York, ben c'est de la faute à New York. C'est toujours le marché qui est pointé comme responsable. Mais en même temps, Bisbee ou différents point de vue, il y a bel et bien eu entre les deux hommes. Et ce qui est intéressant dans sa prise de position, c'est qu'il s'affiche publiquement, il envoie un message à tout le monde, à ses coéquipiers qui un jour vont peut-être voter là-dessus, très très bientôt, d'ici un mois. Il dit « Je me sens prêt à devenir le capitaine ». On le sait, qu'est-ce que ça peut faire dans une équipe, une course à la capitainerie, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Et vous avez encore une vingtaine de minutes pour répondre à la question que j'ai lancée sur Twitter aujourd'hui, relancée également par le Twitter du 98.5 Sport et sur le mien personnel. Deux questions. Si vous étiez dirigeant des Leafs, est-ce que vous préféreriez nommer vous-même comme dirigeant votre capitaine ou envoyer ça aux joueurs, au vote? Et la deuxième question, c'est qui serait votre choix si vous étiez le dirigeant, Austin Matthews ou encore le vétéran qui arrive en ville, Johnny Tavares? Mais je doute fort que Tavares y aille d'une déclaration semblable en disant « Je m'attends ou je souhaite qu'on me donne le C ». Je pense que lui, il va être, disons, un petit peu plus profil bas ou low profile, mauvaise traduction de l'expression, vous connaissez bien, par rapport à ce sujet-là, en bon vétéran qu'il est. Maintenant, du côté du Canadien, on commence à en parler, évidemment, tranquillement, pas vite. On se prépare au tournoi de Max Pacioretty mardi prochain. Comme j'ai quitté l'antenne, moi, à la fin du mois de juin, avant le repêchage et l'ouverture de la période d'autonomie, et que je ne souhaitais pas le faire hier, il y a quand même plusieurs, puis nos collaborateurs qui viendront au fur et à mesure, viendront nous donner leur appréciation de l'été qu'aura connu Marc Bergevin. Est-ce qu'on est satisfait de son travail? C'est difficile de répondre à ça, parce qu'en tout cas, il y a une chose qui est difficile actuellement, c'est d'être le partisan numéro un du DG du Canadien de Montréal, en ce sens qu'il n'y a pas beaucoup de matière pour sur laquelle s'appuyer pour dire waouh, quel job il a fait. Il y a pas eu de raccourci possible, ça je l'ai effleuré hier avec des signatures de joueurs autonomes qui clairement n'étaient pas intéressés à s'entretenir ou en tout cas à négocier avec le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est à cause du marché ou à cause de la position du Canadien au classement l'an passé? Il y a peut-être un petit peu des deux, mais j'ai envie davantage de mettre ça sur le dos de la position au classement de l'équipe, parce que je me dis que si le Canadien était vraiment une équipe attrayante, une équipe qui semble cogner à la porte des grands honneurs, j'ose croire, peut-être à tort, que des joueurs de l'envergure de Tavares ou de Pastrnak ou d'autres auraient considéré ou auraient accordé un petit peu plus d'importance à une candidature ou une possibilité de venir jouer à Montréal. Mais en ce qui a trait au travail de Bergevin, honnêtement, le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là où on est, c'est sûr que c'est de nature à soulever des drapeaux jaunes par rapport à certaines évaluations, par rapport à l'aspect humain de la gestion de certains dossiers. Mais il ne faut jamais oublier une chose, nous n'avons pas toute l'information. Je vous rappelle que c'est l'omerta qui règne dans les vestiaires, et même si tout le monde dit les bonnes affaires, dans la vraie vie, dans les coulisses, dans le vestiaire, dans les relations entraîneurs et coach, c'est loin d'être au beau fixe. Il y a une chose qui est certaine, là où il a échoué, et il n'y avait pas, encore une fois, tu fais ce que tu peux et non seulement ce que tu veux, l'échec de l'été de Marc Bergevin, c'est pas de ne pas avoir réussi à amener John Tavares ici ou encore Paul Stastny. L'échec, c'est de pas avoir réussi à échanger Max Pacioretty. Parce que quand toute la ville le sait, ce n'est plus un secret de polichinelle. Et d'ailleurs, quand toute la ville le sait, il y a lieu de s'interroger sur avec qui le DG partage ses informations en privé. Parce que c'est tellement plus un secret pour personne que Max Pacioretty ne figure plus dans ses plans et qu'on n'a pas apprécié la façon dont il a assumé le pseudo-leadership qu'il devait assumer comme capitaine, qu'il est du temps emprunté. Vous le savez, j'ai pas besoin de tout refaire le dossier Carey Price pour vous dire quand, presque à quelle heure qu'on l'a signé aussitôt que ça a été possible de le faire. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, ou en tout cas, il n'y a pas l'ombre d'une intention actuellement de la part du Canadien de Marc Bergevin de lui soumettre une offre de contrat. Aujourd'hui, les gens me posaient des questions sur Twitter ou encore via le courriel. Max Pacioretty va-t-il commencer la saison à Montréal? J'ai répondu ce que je peux répondre, puis il y a des gens qui ont dit, ouais, ben c'est comment dirais-je, c'est prévisible ou c'est un peu facile comme réponse. Mais revirez ça comme vous voulez, là. Et la réponse que j'ai fournie à un auditeur sur Twitter à cette question-là, Pacioretty va-t-il commencer l'année? Ben, tout indique que oui. Il devrait pas la terminer parce que le Canadien a pas l'intention de lui soumettre une offre à long terme. Il y a pas beaucoup d'équipes qui ont levé la main pour lui offrir un contrat à long terme via une transaction. Le Canadien était très, très ouvert à discuter avec toutes les formations. On sait qu'on est abouti dans un cul-de-sac par rapport à la possibilité que ça se produise du côté des Kings de Los Angeles. Retour à la case départ. Comment ça va se passer? Mardi, on va entendre... En fait, je ne sais pas qui on va entendre. Est-ce qu'on va entendre tout le monde du Canadien? On va se faire un plan de match. Qui va s'adresser aux médias? Qui sera envoyé dans la fosse pour parler de tout ça, des questions hockey, des questions relatives au capitaine Max Pacioretty? Alors, oui, c'est une réponse peut-être un peu facile de dire qu'il va être échangé d'ici la date limite des transactions, parce que comment vous voulez-vous que ça aboutisse autrement? Pensez-vous vraiment que si Max Pacioretty ne fait pas partie de l'avenir du Canadien, et il n'y a rien qui indique que c'est le cas actuellement, que Marc Bergevin va finir l'année comme les Islanders ont fait avec Tavares. Là, on n'est pas dans le même monde pantoute. Tavares et les Islanders ont espéré jusqu'au dernier moment avoir une occasion de le garder à Long Island. La dynamique par rapport à Patrick n'est pas du tout la même. Au point de lui enlever le C pour commencer la saison, savez-vous quoi? Un petit peu comme l'histoire de son tournoi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est l'impact des communications ou encore un petit peu des gens de hockey qui ont beaucoup appris des dernières saisons, on s'embarquera pas là-dedans. De toute façon, le candidat à l'avoir, le C, c'est Shea Weber. Shea Weber est pas en mesure de jouer en ce moment. Et je veux dire, ça serait un peu bizarre de dire on va enlever le C à un gars. Et ça s'est fait, c'est pas d'humilier le gars. San Jose l'ont fait, ils ont gardé les gars à même l'équipe. C'est sûr que la pilule a passé serrée, mais à un moment donné, si t'es un vrai joueur d'équipe, ben tu te comportes comme tel. Alors, Pacioretty va commencer la saison avec le C sur le chandail, à moins qu'on réussisse à trouver un partenaire de danse pour une transaction d'ici là. Faut jamais l'exclure. Mais moi, je pense que le moment où la valeur de Pacioretty va revenir peut-être, où lui va redevenir alléchant pour une équipe, ben, ça sera pas loin de la date limite des transactions. Puis là, ben, avec quelques mois de contrat, pas de charges financières, c'est évident. Regardez toutes les transactions qui ont été effectuées au fil des ans. Regardez ce que Hanzel, qui était parti avec le Wild du Minnesota. Regardez ce que Minnesota a payé pour avoir Hanzel, qui a pas la moitié de la fiche de marqueur de Pacioretty. Et, en résumé, tout ça, je pense que Pacioretty va connaître toute une année de hockey. On apprend via une entrevue qu'il accordait à un journaliste. C'est-tu dans la presse ou le Journal de Montréal? Je veux donner le crédit à la bonne personne. Je me reprendrai tout à l'heure. Mais de par le préparateur physique de Max Pacioretty, qu'il est un peu plus gros, apparemment qu'il serait un petit peu plus vite. C'est TVA Sport, me dit-on. Merci beaucoup, Michel, qui a sorti donc le jus de cette histoire-là, de cette entrevue-là. Donc, c'est sûr et certain que lui, est-ce qu'il va le faire pour le Canadien? Est-ce qu'il va le faire pour vous? Bof. C'est pas tellement important. On n'a pas à présumer de ses intentions. Il y a une chose qui est certaine, il va le faire pour lui. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour lui, généralement. Et davantage pour lui que pour l'équipe. Et ça sort pas publiquement. Maintenant, ça veut pas dire que l'été, il a pas fait réfléchir, de te rendre compte qu'il y a pas personne dans la ligue qui veut te donner l'argent que tu veux, de te rendre compte que finalement, même en termes d'années de contrat, si tu veux des gros chiffres, tu vas avoir moins d'années. Alors lui, l'effet miroir a frappé fort cet été. Alors, l'intrigue est la suivante. Dans quel état d'esprit Max Pacioretty revient à Montréal? En fait, il a pas quitté, il a passé un bon bout de temps ici cet été. De par les propos publics qu'il a tenus, il semble plutôt serein, mais c'est sur le tard qu'il s'est résigné à l'idée qu'il allait recommencer la saison ici. Alors, dans quel état d'esprit, lui, il va jouer cette saison-là? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que dans le fin fond, Pacioretty, avant que ça dérape, avant que tout dérape, c'est que lui, il s'est pas comporté en vrai leader dans la dérape. Au contraire, il est un artisan de la dérape. Mais c'est sûr que si tu le dépouilles du C, tu fais une grosse histoire à Montréal, on veut pas s'embarquer là-dedans. On veut pas s'embarquer dans le fait qu'il y avait pas de conflit d'horaire, on a arrangé ça. On veut pas de troubles inutiles. Il faut gérer le marché et le but, je pense, c'est de faire en sorte que tout le monde se comporte en professionnel. Et là, je parle de l'attitude de Pacioretty, mais l'attitude de Marc Bergevin et de ses dirigeants aussi va compter. Mais je pense que c'est aux joueurs d'en donner davantage qu'aux dirigeants. Les dirigeants, leur position est claire. Eux autres, c'est final bâton, c'est terminé, à moins que... Puis là, c'est moi qui l'ajoute, là, à moins que. C'est pas, on me dit pas à moins que. Mais moi, je dis à moins que, parce que on sait jamais, parce que je vais répéter la cassette qu'on a entendue toute l'année passée, des gars qui marquent 25, 30, 35 buts, ça court pas les rues. Alors, si le gars arrive avec, disons, un petit séjour à Saint-Benoît-du-Lac, à l'Abbaye, puis il revient dans un bon état d'esprit, qui joue du hockey inspiré, qui arrête de se comporter comme un gars à qui tout est dû, qui arrête de dire « je vais pas jouer avec un tel, je vais pas jouer avec un tel », mais qui joue, qui va devant le net, qui va dans un coin, hey, on sait jamais. C'est pour ça que la réponse à la question qu'on m'a posée aujourd'hui était ouverte. Il y a des hypothèses, je dis, à moins que, parce qu'on ne sait jamais. L'histoire s'écrit tous les jours. Alors, à suivre, évidemment, on va faire une courte pause. Dans quelques instants, Ray Lalonde va venir passer de bonnes minutes avec nous. Plusieurs dossiers de sport business. Et après la pause, ça, c'est beaucoup plus triste. Je vous faisais allusion tout à l'heure, décès de Denis Baillargé, un de ses grands amis. Marc Lachapelle, l'ancien du Journal de Montréal, vient nous parler de Denis qui a rendu son dernier souffle au cours des dernières heures. Marc qui était à ses côtés pas plus tard qu'hier. À tout de suite.